Il avait été négocié pendant plus de 7 ans, approuvé par le Parlement européen en février 2017, entré en partie en vigueur de manière provisoire depuis bientôt 2 ans. L'accord économique et commercial global, en anglais le CETA, doit être validé par les 38 assemblées nationales et régionales d'Europe, d'où son examen demain à l'Assemblée nationale et plus tard au Sénat. Le CETA qui supprime les droits de douane sur quasiment tous les produits échangés entre l'Europe et le Canada permet aussi la reconnaissance de 143 produits européens d'origine géographique protégée, dont 42 produits français, Roquefort ou Pruneau d'Agen par exemple, mais à l'inverse, il donne à l'agriculture canadienne, notamment à la viande de bœuf, un accès accru au vieux continent, suscitant l'inquiétude des éleveurs français qui dénoncent une distorsion de concurrence. Les normes sociales et environnementales européennes seront-elles appliquées aux importations? Et s'il y a des fraudes, pourra-t-on les bloquer? Qu'en sera-t-il de la lutte pour le climat? Que penser des tribunaux d'arbitrage qui pourraient permettre aux multinationales de contester la décision d'un gouvernement? Beaucoup d'interrogations subsistent sur le texte de ce traité de plus de 2300 pages et dont nous allons débattre avec Aurore Laluc, députée européenne élue sur la liste Place Publique et qui siège parmi le groupe socialiste et démocrate. Elle est en duplex avec nous de Strasbourg. Avec nous en studio, Jacques Maire, député La République En Marche des Hauts-de-Seine, rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du CETA. Bonsoir monsieur. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Vos questions au 01 45 24 7000.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Premier auditeur, c'est Bernard qui nous appelle de Poitou-Charentes. Bonsoir Bernard, nous vous écoutons.
Bonsoir. Oui, je me faisais une réflexion. Bonsoir à tous. Je me faisais une réflexion sur le thème d'hier soir et le thème de ce soir. Hier soir, vous aviez invité sur le thème des émissions de CO2, taxation des transports, des billets d'avion, et puis sur le transport routier, une minoration des avantages des taxations sur le gasoil des camionneurs. Et ce soir, vous faites une émission sur le CETA et indirectement on pense aux accords du Mercosur qui sont derrière. Ça fait sourire parce qu'en fin de compte il y a un brin d'hypocrisie de la part de nos dirigeants qui d'un seul coup taxent nos activités intérieures et en nous faisant passer pour des pollueurs et d'un autre côté on va importer des produits ou du Canada ou d'Amérique du Sud qui seront dans des normes environnementales et sociales totalement en décalage avec ce que nous faisons en France, ce que la population, les médias, le monde politique veut que nous produisions, puisque je suis paysan, donc voilà. Et d'un seul coup, on nous met dans une concurrence absolument déloyale, et toutes ces tonnes de viande qui vont traverser l'Atlantique, qui vont traverser dans des camions, dans des bateaux frigo, hein, bien entendu, à fort consommation d'énergie, ça paraît totalement irréaliste et rêveur de voir ce genre d'accord alors que nous sommes des producteurs et que l'Europe est normalement autonome en viande. Voilà.
Merci beaucoup Bernard d'abord d'être un fidèle auditeur du téléphone sonne. Alors effectivement Jacques Maire, c'est un peu paradoxal hein, de taxer d'un côté les billets d'avion, d'un autre côté de faire traverser l'Atlantique à des bovins.
Figurez-vous effectivement que les questions que se pose Bernard, on se les est effectivement posées nous-mêmes en 2017, quand cet accord qui a été négocié sous l'époque Sarkozy et signé par François Hollande est arrivé pour arriver en ratification. Et la décision qui a été prise par le gouvernement et la majorité est de dire on ne ratifie pas pour l'instant, on va attendre effectivement de bien comprendre ce qu'il y a comme enjeu derrière, comme difficulté. Et donc on a fait beaucoup de choses depuis des ans. Et une des questions qui a été abordée par Bernard, c'est effectivement la question du CO2. Eh bien pour la première fois, ça n'avait jamais été fait auparavant, on a demandé à un centre de recherche scientifique indépendant de mesurer l'impact CO2 du CETA. C'est concret, c'est précis. Et effectivement, on voit que comme globalement l'économie du Canada est extrêmement petite par rapport à l'économie européenne, on part dans un rapport de 1 à 15, il y a un impact économique qui est limité et un impact CO2 qui n'est pas nul, mais qui est limité, très très limité. Alors, c'est pas suffisant, oui. Parce qu'effectivement, il faut le mettre sous contrôle. Donc, ce qu'on a décidé, c'est deux choses. D'abord, que tous les accords à négocier à venir passent par la moulinette de cette modélisation impact CO2.
Qu'aussi, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on fasse à chaque fois la mesure de ce que sera l'impact CO2 des accords et qu'on voit si et comment on peut faire en sorte pour compenser. Parce que, évidemment, les échanges sacré du CO2. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut mettre des compensations ou pas ? Donc là, il y a un point quand même qui est très important, et vous l'avez indiqué, sur les transports maritimes et le transport aérien international. Aujourd'hui, ils ne sont pas couverts par les accords de Paris. Et ce que nous avons décidé avec le Canada, c'est que nous mènerions ensemble la bataille pour intégrer ces deux catégories de transport dans les accords de Paris, parce qu'aujourd'hui, ils sont sans contrôle.
Alors malgré tout, Jacques Maire, je précise qu'Aurore Laluc n'est pas encore en ligne avec nous, hein, raison pour laquelle je ne lui donne pas la parole. Jacques Maire, donc vous êtes le rapporteur de ce projet de loi qui autorise la ratification du CETA, qui sera probablement d'ailleurs ratifié demain, vous n'avez aucun doute là-dessus.
Aucun doute, non.
Le président de la République lui-même avait mandaté des experts pour étudier le contenu du traité. Ils étaient très réservés, justement, sur ce
traité. Ils avaient des points d'interrogation, et je crois que c'est très important. D'abord, nous avons souhaité ces experts. Quand ils ont fait part de réserve, nous avons écrit, nous avons demandé, les parlementaires, au gouvernement, un plan d'action CETA.
Oui, mais le contenu du traité n'a pas changé.
Non, mais beaucoup de choses se sont passées depuis. Et je vais vous donner un petit peu quelques exemples. Premier exemple, je l'ai indiqué, c'est on modélise l'impact CO2, l'impact économique. Deuxième exemple, on veut vérifier sur le plan des garanties juridiques si oui ou non le CETA remet en cause notre droit à légiférer. En matière sociale, en matière environnementale, en matière climatique. Et donc là, ont été saisies les deux instances qui disent le droit en Europe et en France, et le Conseil constitutionnel d'un côté et la Cour de justice de l'Union européenne de l'autre. Tous les deux ont dit, le CETA, en rien, n'interdit de protéger et légiférer. Et le Conseil constitutionnel a même été plus loin en disant, le CETA n'est absolument pas incompatible, il préserve le principe de précaution. Donc voilà, c'est des éléments concrets.
Et sur les craintes qu'exprimait Bernard aussi au niveau de la concurrence, puisque les Canadiens ne respectent pas toujours les mêmes normes sociales et environnementales que nous.
Voilà, donc là je voudrais dire qu'effectivement sur le plan... D'abord, les Canadiens quand même sont extrêmement proches de nos normes au sens global du terme. Après, il y a des différences ici ou là, mais on parle quand même d'un pays qui a un niveau de développement qui est le même, qui a un niveau y compris culturel et politique de diversité et d'engagement et de mouvement environnementaliste qui est extrêmement fort. Et quand on lui reproche, à juste titre, la pollution des sables d'Alberta, ils nous remettent dans la figure le charbon polonais, le nucléaire français, etc. Donc, chacun quand même doit regarder un peu...
C'est aussi un pays qui utilise beaucoup de pesticides, qui élève des hormones, etc.
Voilà, venons-y. Donc, Bernard a évoqué la question effectivement de l'élevage. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux ans, la FNSEA était plutôt très ouverte à l'accord, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux offensifs dans l'accord. C'est par exemple la question des vins et spiritueux, c'est la question des appellations d'origine, et le lait. Et effectivement, au bout de deux ans de mise en place de l'accord, on voit que l'excédent commercial agricole français, exportation, a augmenté de 10%. Donc il y a un sujet qui effectivement est bien critiqué, c'est le sujet des bovins. Moi, je crois qu'il faut l'aborder directement. Le sujet des bovins. Aujourd'hui, la France consomme 2 millions de bovins. D'accord ? Elle a importé 120 tonnes de bovins du Canada l'année dernière. C'est-à-dire même pas un pour 10 000.
Donc aujourd'hui, le temps que les Canadiens se mettent aux normes.
Eh ben, allons-y là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'exportation d'Europe vers le Canada ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'exportation du Canada vers l'Europe ? Quasi nul. Parce que le Canada, il produit des bœufs aux hormones. Ça lui coûte moins cher, c'est compétitif. Et il y a un énorme marché pour cette production de bœufs aux hormones. C'est les Américains, mais les Canadiens veulent s'en détacher un peu pour être moins vulnérables par rapport à Trump. Et c'est l'Asie. Il faut savoir que l'Asie, aujourd'hui, les États-Unis absorbent 99% des exportations canadiennes. L'exportation en Europe, c'est même pas le 12e, c'est derrière la Côte d'Ivoire et le Kenya. Donc aujourd'hui, quand on peut faire l'exportation de bœuf aux hormones sans contrainte compétitive vis-à-vis des pays tiers, pourquoi est-ce qu'on irait créer une filière aux hormones ? Et aujourd'hui, il y a 36 fermes, je dis bien 36 fermes sur 70 000 au Canada, qui sont estampillées, certifiées pour le marché européen. 36, pas une de plus. Effectivement, elles sont toutes surveillées. Vous imaginez bien que 36 fermes, c'est pas un enjeu de surveillance extrêmement complexe à gérer.
Alors, nous avons retrouvé Aurore Laluc, députée européenne du groupe socialiste et démocrate, élue sur la liste Place Publique. Bonjour, madame.
Bonjour.
Alors, vous avez entendu les derniers arguments de Jacques Maire. Vous êtes hostile à ce traité, comme d'ailleurs à l'ensemble des traités de libre-échange, je crois.
Non, c'est pas être hostile à l'ensemble des traités de libre-échange. Moi, j'ai rien contre le commerce international à la base. C'est pas du tout ça. Faut sortir de ce débat un petit peu caricatural entre d'un côté, il y aurait des protectionnistes et de l'autre, des libre-échangistes. Déjà, il n'y a pas de libre-échange. Ce sont des accords. Donc, il y a de la règle de droit. Il n'y a rien de très, très libre dans tout ça. Tout ça est très, très contraint, finalement. Donc, ça serait un premier point. Non, nous, ce qu'on veut, c'est remettre le commerce international à sa place. C'est-à-dire faire en sorte qu'il respecte des critères sociaux et des critères environnementaux. Je crois qu'aujourd'hui, la mondialisation, le commerce international se porte plutôt bien. Par contre, les vrais enjeux, c'est celui du dérèglement climatique, celui de la perte de biodiversité, la hausse des inégalités, la pauvreté. C'est ça aujourd'hui nos enjeux. Donc, pourquoi aller multiplier les accords de commerce, perdre notre énergie, perdre des normes sanitaires dans ce domaine, des normes environnementales, des normes aussi démocratiques, alors que les enjeux sont ailleurs? Nous, ce qu'on demande juste, c'est remettre le commerce international à sa place.
Alors, on comprend pas bien ce que ça pourrait être, alors.
Ce que ça pourrait être, très concrètement, ça veut dire que quand un traité va à l'encontre de l'accord de Paris, par exemple, quand un traité va avoir des conséquences négatives d'un point de vue sanitaire, comme ça a été démontré pour le CETA, pourquoi le signer ? Enfin, l'enjeu aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique, c'est pas la mondialisation. La mondialisation, elle va bien. Enfin, on échange très bien avec le Canada. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'approfondir à ce point nos échanges avec le Canada ? Non, ça va, on échange très très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il ne s'agit pas de bloquer absolument tous les traités de manière dogmatique, il s'agit juste de dire qu'aujourd'hui, la priorité, elle est ailleurs. C'est tout.
Éric, qui nous appelle du Var, bonsoir Éric.
Oui, bonsoir. Ma question était la suivante. Sachant que c'est assez opaque en règlement, en règle générale, ce genre de traité, j'aurais voulu savoir qui concrètement a négocié ce traité et puis qui a véritablement lu l'accord final, parce que on sait que quand un traité est signé, c'est dans les virgules que va se nicher le diable. Et puis, dernière petite chose, j'aurais bien aimé que France Inter organise une émission sur le référendum d'initiative partagée par rapport à l'aéroport de Paris. Merci.
Bien sûr, mais nous en avons parlé beaucoup et nous en reparlerons régulièrement. Mais c'est une bonne idée. Nous pouvons y consacrer un téléphone sonne dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas de problème. Aurore Laluc, cette question d'Éric nous renvoie effectivement au problème démocratique que vous avez pointé il y a quelques instants.
Mais oui, il y a déjà un problème de transparence sur ces accords. On n'a souvent pas accès à des accords qui vont être déterminants pour notre économie, pour notre démocratie, encore une fois, pour des éleveurs, notamment en France. C'est la Commission qui négocie ces accords pour l'Union européenne. Ensuite, le texte est analysé par le Conseil, les parlementaires, etc. On peut y avoir accès, mais de manière secrète. Voilà, c'est ça aussi le problème. Il faut faire partie de certaines commissions pour pouvoir avoir accès à ces textes, et on n'a pas le droit d'avoir avec nous des prises de notes, etc., etc. Donc c'est un vrai sujet. Enfin, déjà, la façon dont ça se fait n'est pas normale, en fait. On voit très bien qu'il y a beaucoup trop d'opacité qui crée de facto de la défiance, et à juste titre.
Mais aujourd'hui, les parlementaires peuvent s'en saisir et ne pas le ratifier.
Et ben justement, demain, le vote, il est crucial pour le CETA, parce qu'on a vu très très bien, contrairement à ce qu'a pu dire le gouvernement français d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a des farines animales qui vont être importées. On voit très bien que ça a eu une augmentation sur les importations de pétrole issu des sables bitumineux, etc., etc. Donc c'est demain, il y a un signal extrêmement fort qui peut être apporté par le Parlement européen, notamment aussi pour s'opposer, vous savez, à ce tribunal arbitral, cette justice privée, qui pourrait empêcher, en fait, des avancées réglementaires dans le domaine environnemental, dans le domaine sanitaire au niveau français. C'est-à-dire que les investisseurs, les entreprises pourraient se retourner contre certaines réglementations françaises quand celle-ci ne leur convient pas, ce qui est quand même vraiment problématique.
Alors, il y a deux points là. Les tribunaux d'arbitrage, vous en avez dit un mot, Jacques Maire, on peut y revenir. Mais d'abord, sur ce sujet des farines animales.
Sur la transparence.
La transparence, si vous voulez.
Parce
d'abord.
Que ma collègue, en fait, vient d'arriver apparemment au Parlement européen et doit prendre en considération tout ce qui s'est passé depuis des années en matière de lutte pour la transparence. C'est-à-dire, les militants pour la transparence, ils n'ont pas commencé à se réveiller il y a 3 jours. Ils ont commencé à se réveiller il y a des années. Et moi, il se trouve effectivement que quand je suis arrivé comme d'autres en 2017 et que je voyais que ça faisait simplement quelques mois que l'ancien ministre socialiste du commerce commençait à parler avec le parlementaire, je pensais qu'il fallait accélérer. Et on a été plusieurs à mettre beaucoup de pression. Alors, la commissaire elle-même, elle a commencé, effectivement. Par exemple, maintenant, les mandats de négociation sont rendus publics. On en veut toujours plus, hein. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal de choses. Et pour votre information, le sujet du CETA et des accords de commerce, y compris la préparation des négociations en cours, ont fait l'objet d'auditions systématiques du ministre avant chaque négociation, avant chaque session du commerce, des ministres du commerce à Bruxelles. Compte rendu systématique, écrit auprès des commissions concernées, Assemblée, Sénat, chaque fois. Effectivement aussi possibilité d'avoir un comité de suivi trimestriel qui permet d'avoir un tableau de suivi accord par accord sur l'état des négociations. Donc, je dis pas que c'est parfait, mais il y a une vraie bataille qui a été menée et je pense que très important de ne pas décrédibiliser les batailles gagnées parce qu'effectivement, il y a bien d'autres choses sur lesquelles il faut se battre. Alors maintenant, sur la question des...
Alors, les farines animales, parce que là, on y oui. comprend plus grand chose. Le gouvernement dit non, aucun ruminant nourri aux farines animales ne sera importé. On voit dans d'autres études que certaines farines animales vont pouvoir passer à travers les mailles du
filet. Je pense qu'il y a eu du flou dans les expressions, parce qu'effectivement une espèce de vocabulaire très technocratique qui fait que tout le monde s'y paume. Et vous l'avez dit, 2000 pages, etc. Comment est-ce qu'on y accède ? Alors, on a été au bout, nous, de ce qu'on souhaitait comprendre. Et moi, je remercie de ce point de vue, je dirais, les experts scientifiques indépendants qui ont mis la pression, parce qu'on a besoin de comprendre. Moi, je ne suis pas, je dirais, l'objet du lobby internationaliste de je ne sais pas quoi. Je suis parlementaire en responsabilité, je veux comprendre. Donc, quand on parle en fait de farine animale, on parle de quelque chose de très précis, qui est les farines qui viennent des animaux qui sont morts et qui sont impropres à la consommation.
De viande et d'eau.
Non. Et d'os. Non, je reprends. Pardon. De farine animale, c'est farine d'animaux qui sont morts et qui ne vont pas à l'abattoir, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, mais qui vont globalement à l'équerrissage, à la déchetterie. Oui. Donc ça, c'est interdit en France, c'est interdit en Europe.
Mais il y a ce qu'on appelle des protéines animales transformées.
Voilà, exactement.
Ah oui, mais ça revient au même.
Eh bien, soyons précis, c'est pas la même chose du tout, puisque dans un cas, il y a effectivement des produits impropres à la consommation humaine. Dans l'autre cas, il y a des protéines animales transformées qui viennent d'animaux sains, qui ont été abattus normalement et qui vont aller dans la consommation humaine. Et il se trouve que certaines parties de ces animaux, du point de vue de l'Organisation internationale des épizooties, l'OIE, qui est l'organisation internationale qui définit les normes sanitaires, ces animaux ne sont pas interdits. Ces farines d'animaux, enfin ces protéines animales transformées, qui sont des espèces de farines, je suis complètement d'accord, c'est pour ça que c'est confus, ne sont pas interdites pour la consommation des ruminants. Alors simplement...
Sauf qu'elles sont issues de restes d'animaux...
D'animaux comestibles.
Oui, qu'on ne donne pas à manger du bœuf au bœuf.
Alors ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la crise de la vache folle a commencé en France et en Europe. Elle a fait des centaines de milliers de victimes dans les bétails en Europe. Elle a fait aussi des morts. Ça a traumatisé complètement le marché français et européen. Et aujourd'hui, le consommateur européen, qui est celui qui a vécu la plus grosse crise, considère qu'il ne faut pas alimenter des ruminants, y compris avec la protéine animale, je dirais, saine. Mais ce n'est pas un sujet de santé publique, c'est un sujet de préférence collective. Les Canadiens eux-mêmes l'autorisent. Mais il faut dire aussi qu'ils l'autorisent de façon plus restrictive que, en gros, ce que permettent les traités internationaux. Mais je voudrais dire surtout que nous en mangeons tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 3 à 4% de la viande de bœuf aujourd'hui.
Non, mais c'est sans danger, c'est entendu.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le CETA ne change rien par rapport à ça. Ce sont les mêmes normes qui s'appliquent au CETA, comme à l'Argentine, comme aux autres importations.
Aurore Laluc, un mot là-dessus ?
Un mot sur la transparence déjà. Je ne sais pas parce qu'il y a eu des combats qui ont été gagnés qu'il faut s'en satisfaire et s'arrêter là. Donc
absolument,
le combat doit continuer. Ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur la question des farines animales, les préférences nationales et les préférences européennes s'expriment sur des scandales sanitaires. Donc c'est pas non plus des préférences qui sont complètement déconnectées d'une certaine réalité. Il s'agit de les entendre. Et par ailleurs, s'il y a des préférences européennes, il y a des préférences européennes. On a le droit de les assumer parce qu'il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu bizarre dans le fait de nourrir des bovins avec des farines animales, me semble-t-il. Par ailleurs, la Fédération nationale de l'élevage bovin a alerté ces derniers jours sur le fait que sur le danger de certains types de viande bovine importée sur le territoire européen du fait qu'elles étaient effectivement nourries par ces protéines animales transformées, c'est-à-dire par des farines animales. Enfin, je veux dire, à un moment, faut arrêter de rendre les choses hyper compliquées. Hein, quand il y a trop de flou comme ça, c'est qu'il y a un loup. Donc, non, on a besoin de choses très très simples en termes de commerce international. Sortir d'une sorte de démesure, revenir à de la simplicité pour un commerce international. Oui, pas pour du grand n'importe quoi auquel personne ne comprend plus rien.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
deux réflexions arrivées par mail. Florent qui nous écrit les conséquences en CO2 du CETA seraient peu dommageables, comme vous l'avez dit Jacques Maire. D'accord, dit-il, mais un CETA peu dommageable plus un TAFTA peu dommageable plus un Mercosur peu dommageable égale une mondialisation qui reste très dommageable. Et puis Claire nous dit par mail également, pourquoi importer du bœuf du Canada alors qu'on a largement ce qu'il faut en France et en Europe? Valorisons plutôt les producteurs locaux et les circuits courts. Quels sont véritablement les intérêts de la France et de l'Europe?
Oui, alors sur la question de peut-on faire aujourd'hui un accord commercial sans volet climatique, la France a répondu non. C'est-à-dire que ce qui était possible avant les accords de Paris ne l'est plus. Et la meilleure preuve, c'est que la France s'est opposée il y a quelques semaines, d'ailleurs pendant les élections européennes, à l'adoption du mandat de négociation avec les Américains. Pour plusieurs raisons, mais la principale politique, c'était pas de référence à l'accord de Paris et pas d'engagement. Vous savez, le marché européen, c'est le plus attractif au monde parce qu'il est stable, parce que la règle de droit existe, parce qu'il fait 500 millions de personnes et c'est le plus gros. Donc tout le monde a envie de venir aujourd'hui sur le marché européen. Donc c'est l'occasion pour les Européens de faire monter effectivement les prix en termes de référence et de modèle. Et donc comment on le fait ? En imposant effectivement aux partenaires qui veulent accéder à notre marché des normes de référence plus élevées. Donc ça, c'est une opportunité. Deuxièmement, sur les exportations, il faut savoir que les paysans, là je regrette madame, mais je pense qu'il faut revenir à la réalité économique. La FNSEA et les organisations paysannes, la Confédération paysanne et les autres, ne souhaitent absolument pas sortir l'agriculture des accords commerciaux de libre-échange. Parce que l'Europe et la France vivent de l'exportation agricole. Donc il faut bien comprendre ça. Et donc le localisme généralisé, c'est très bien, mais aujourd'hui ça mettrait en faillite la paysannerie française. Donc ils n'en veulent pas. Et la conséquence effectivement, c'est qu'on est très prudent sur les filières sensibles. Je rappelle, pour le fromage, plus 20% d'exportation. Pour le bœuf, c'est infime. Les flux n'existent pas. On parle d'un sujet virtuel.
Aurore Laluc.
Alors, premièrement, sur l'exportation des références, on fait exactement l'inverse pour l'instant. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller vers du moins 10 ans sanitaire, moins 10 ans environnemental, au lieu de faire l'inverse.
Soyez concret.
Point. Deuxième point, sur la question, bah, par exemple avec le CETA, on est en train d'importer de la viande qui va être bourrée d'antibiotiques, bourrée d'OGM, bourrée de produits dont nous ne voulons pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question du volet. Vous voyez, moi, ce qui me dérange, c'est toujours cette idée de « on va intégrer un chapitre environnemental aux accords, on va intégrer un chapitre social ». Non, il ne s'agit pas d'intégrer aux accords un chapitre. Il s'agit de faire en sorte que le commerce international s'intègre à des normes sociales et environnementales. C'est ça le souci, c'est qu'il faut inverser la hiérarchie des normes aujourd'hui. Parce que notre plus grand défi, et La République En Marche a pourtant fait campagne sur ce sujet lors des européennes, c'est la question climatique. Aujourd'hui, on a entendu la future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tenir exactement le même discours. C'est-à-dire, grosso modo, on va continuer à faire des accords de commerce. Et puis, ah oui, on rajoutera un petit chapitre environnemental, social, droits de l'homme, etc. Ça veut dire qu'on ne change strictement rien. On continue à faire comme avant. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, arrêtons de caricaturer le débat. Il ne s'agit pas de dire, quand quelqu'un dit, bah, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas local ? La personne n'est pas en train de dire il faut sortir de tous les accords de commerce. Elle ne dit pas ça. Elle dit juste, sur certains produits, sortons d'une sorte de déraison. Allons vers des produits qui permettent qui ont moins de flux carbone en termes de transport, c'est-à-dire qu'ils sont produits un petit peu plus près. Il ne faut pas caricaturer ce débat. Moi, ça, c'est un débat que je refuse.
Vous êtes d'accord avec ce que dit, vous êtes d'accord avec ce que disait la commissaire au commerce, Cécilia Malmström. Tant que tous les produits ne seront pas fabriqués dans le village d'à côté, il y aura du commerce.
Mais il ne s'agit pas de faire en sorte que tous les produits soient produits dans le village d'à côté. C'est impossible, c'est pas ça la question. On a des exportations, il n'y a pas de problème. On a des importations, il n'y a pas de problème. Il faut juste sortir d'une sorte de démesure. Il ne faut vraiment pas se laisser piéger dans ce débat par le protectionnisme versus le tout libre-échange et le tout va à la mondialisation. Il y a un entre-deux qui est extrêmement important, me semble-t-il.
Quand Cécile Duflot s'interroge pourquoi faire traverser l'Atlantique à un bœuf, par exemple, ou quand Nicolas Hulot dit le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques.
Non, elles ne sont pas à l'origine. Je ne pense pas qu'il ait dit à l'origine de tout. C'est un ensemble systémique. Bah oui, il y a des pots de yaourt qui font je ne sais combien de kilomètres pour se retrouver sur notre table. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est logique en ce moment, alors qu'on a un sujet qui est le dérèglement climatique, encore une fois ? Je ne pense pas. Voilà. Et il ne s'agit pas de dire que pour certains produits, il n'y a pas besoin d'importation et que nous n'avons pas besoin d'exporter. Juste à un moment, si on veut vraiment prendre la question climatique et biodiversité au sérieux, il va falloir remettre le commerce international, encore une fois, à sa place.
Jacques Maire, deux points précis dans ce que vient de dire Aurore Laluc qui interroge les OGM et les antibiotiques.
Oui, je trouve ça un peu dommage, surtout pour un représentant de parti de gouvernement, de générer par la peur, sur une base complètement, je dirais, non informée et non scientifique, vis-à-vis de situations qui ne sont pas dans le texte. Les OGM sont absolument... Les animaux, je dirais, modifiés OGM sont absolument interdits à l'importation. Donc les saumons OGM ne viendront jamais en France. Et vous le savez parfaitement. Et sur les
antibiotiques, en revanche.
Sur les antibiotiques, et ben parlons-en des antibiotiques. Les antibiotiques, nous avons des limites maximum de résidus qui sont très basses dans les produits. Et nous venons de prendre une décision, qui est une décision qui vient de l'Union européenne, qui dit effectivement qu'à partir de 2022, il n'y a plus de possibilité de donner des antibiotiques de croissance. Et ce sera donc, la limite sera à zéro. Et donc tout antibiotique, déjà aujourd'hui au Canada, doit être uniquement lié à un acte vétérinaire pour la santé. Et donc l'antibiotique de croissance est maintenant interdit. Alors, donc, on est concret là-dessus.
Aurore Laluc, sur ces deux points.
Oui, sur ces deux points, je vais intervenir, parce que là, il ne faut pas... C'est le rapport Schubert, c'est le rapport de la commission des experts qu'Emmanuel Macron a mandaté pour faire une évaluation à la fois démocratique, économique, environnementale et sanitaire du CETA, qui a dit il y a des risques très sérieux pour qu'il y ait des importations de viande qui auront mangé des OGM, qui auront eu des antibiotiques, etc. Donc je suis désolée monsieur, c'est pas moi qui invente, c'est la commission des experts que votre propre gouvernement a mandaté.
Alors sur les antibiotiques, je crois que c'est clair, d'ici 2022, mais l'OGM, sur les OGM.
Ce rapport a deux ans. Oui. Donc il faut un petit peu se mettre au bout. Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans? Donc la question effectivement d'alimentation, deux choses. L'alimentation en fourrage OGM, mais c'est massif en France. Le soja OGM est la première source d'alimentation et de protéines végétales en France. Donc voilà, ça existe. Il n'y a pas de changement par rapport au... Mais les animaux OGM, c'est totalement interdit et ce sera interdit. Et les antibiotiques, ce règlement de 2022, il date d'après la commission Schubert. Effectivement, des choses ont bougé naturellement.
Un nouvel auditeur, c'est Xavier qui nous appelle d'Arles pour aborder la question des produits certifiés bio. C'est ça,
oui,
Xavier.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Tout à fait. Bonsoir, messieurs, dames. Ma question était la suivante, ou mon commentaire. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une vague de fond qui est en train d'arriver par rapport à l'alimentation bio. Et on a déjà du mal, parce que les gens, on aura le bol de manger n'importe quoi, et on a déjà du mal à être sûr et certain que les standards bio entre la France, l'Espagne, donc on va dire les pays européens, voire même du Maghreb, sont les mêmes. Déjà en importation en France, et quid de ces niveaux-là, de ce niveau de certification au Canada, par le Canada, parce qu'on voit très bien qu'il y a une demande qui est énorme et qui est croissante, donc forcément il va y en avoir qui vont arriver du Canada, quid des niveaux des standards canadiens par rapport aux standards français. On voit que même dans les standards qui sont valorisés, européens, déjà ce ne sont pas les mêmes. Des produits sont autorisés d'autre part, quid de l'assurance qu'on pourra avoir que le standard AB ou bio provenant du Canada sera d'une aussi bonne qualité et certain que celui qu'on a en France ou en Europe.
Bien compris, Xavier. Merci de nous avoir appelé, Jacques Maire.
Alors moi, je n'ai pas la réponse, effectivement, sur le bio. Absolument pas, et je ne vais pas l'inventer. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un combat à mener que nous menons aujourd'hui, c'est sur l'étiquetage. L'étiquetage au niveau français, au niveau européen, l'étiquetage bio, l'étiquetage d'origine, l'étiquetage OGM aussi. Nous pensons qu'effectivement, parce qu'il y a un consensus international sur des normes acceptables ou pas, et au bout d'un moment, il faut donner le pouvoir aux consommateurs. Et donc, il y a une expérimentation sur l'étiquetage qui existe en France, qui a été, avec beaucoup de pression vis-à-vis de la Commission européenne, maintenue pendant encore l'année à venir. Et nous voulons effectivement que les régimes d'étiquetage soient complètement harmonisés au niveau européen.
Alors, autre chose, je reviens sur les tribunaux d'arbitrage sur lesquels on est passé très vite. Aurore Laluc en parlait à l'instant. Oui. Une réponse assez rapidement. Oui, une multinationale pourra se retourner contre décision gouvernementale.
D'abord, il faut savoir que les recours d'investisseurs contre la France, parce que son droit serait discriminant, il y en a eu un depuis 50 ans, et c'est le Kazakhstan. On a eu zéro des États-Unis, on n'a pas eu du Canada. Donc, dans les États de droit très structurés, comme c'est le cas de la France, je veux dire, la probabilité qu'on attaque le gouvernement pour une législation est très faible. Deuxièmement, on a effectivement considéré qu'il y avait quand même un risque et le gouvernement a accepté la demande de la commission Schubert et des parlementaires de mettre en place le veto climatique. Et le veto climatique, ce n'est pas un veto qui est climatique, c'est un veto qui dit les gouvernements donc canadiens et européens ensemble peuvent décider d'opposer leur interprétation contraignante, c'est-à-dire d'opposer le fait que cette norme est vraiment d'intérêt général.
De poser des normes sociales et environnementales contre lesquelles on ne pourra pas se retourner. Aurore Laluc ?
Oui.
D'accord
alors
avec
sur
ça.
Sur le veto, malheureusement, j'aimerais être d'accord, mais je ne le suis pas. Sur le veto, c'est malheureusement un faux veto. C'est-à-dire que ça va strictement rien empêcher. C'est un avis négatif, en fait, qui va être donné et pris en compte, c'est vrai, par le tribunal d'arbitrage. Mais ce n'est en aucun cas un veto. Ça ne va rien empêcher. C'est juste un avis négatif qui va être donné. Concernant Par contre, le reste des tribunaux d'arbitrage, on a des cas quand même où il y a eu entre pays des sujets. Je pense notamment à l'entreprise minière canadienne Gabriel Ressources contre la Roumanie qui avait déposé plainte en 2016, parce que l'État roumain ne l'avait pas autorisé à exploiter.
Ou la Suède contre l'abandon des centrales nucléaires allemandes. Oui.
Il y a Philippe Morris aussi qui avait attaqué l'Australie et l'Uruguay suite à l'adoption de mesures de prévention du tabagisme. Bref, en fait, il y en a beaucoup de ces cas et ça se règle à coût de milliards de dollars dans les meilleurs cas. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se traduise par des changements de réglementation.
Jacques Maire.
Oui, juste une précision. Moi, je veux bien qu'on dise ce qu'on veut, mais je lis explicitement ce que dit le règlement concernant le veto climatique. Une interprétation adoptée par le comité mixte du CETA lit le tribunal et le tribunal d'appel. Concrètement, ça veut dire qu'effectivement, une décision interprétation mixte est opposable au tribunal. Et deuxièmement, les interprétations adoptées par le comité mixte sont rendues publiques immédiatement. Donc là, je ne vois vraiment pas où est le débat.
Aurore Laluc, si le
non mais un veto c'est non hein. Il y a pas de débat à avoir. Un veto c'est non. Et d'ailleurs les
exactement
personnes qui avaient proposé cette proposition, non c'est pas ce qui est marqué.
Merci, les madame.
Personnes qui avaient défendu
merci,
cette proposition dans la commission bon. Schubert sont toutes vent debout contre le fait qu'on appelle aujourd'hui
absolument
ce qui est
pas,
proposé veto.
Sous les yeux.
Aurore Laluc, est-ce que vous diriez comme Mathieu Orphelin que il faut encore regarder au fond, mais il faudra quand même le ratifier ce CETA. Donnons-nous simplement quelques mois pour en débattre encore.
Non, faut pas le ratifier parce que c'est on rentre sinon dans une espèce d'engrenage où on va se mettre à tout accepter. Faut pas l'accepter pour des raisons sanitaires, pour des raisons environnementales, pour des raisons démocratiques et du fait justement de ces fameux tribunaux privés. Parce que c'est ça la ratification, c'est qu'on entérine définitivement le principe de ces tribunaux privés. Donc
ils sont
non,
pas privés,
non,
ils sont
non,
publics,
pas de
madame. Ce sont tribunaux publics. Il n'y a plus d'arbitrage
privé. Vous savez,
privé.
Il faut le dire.
Le tribunal est un tribunal de droit public. Voilà.
On a du droit qui fonctionne très très bien. Je ne vois pas pourquoi il y a besoin de créer ce type de mesures, ma foi, assez opaques et qui posent un problème dans notre cadre démocratique.
Mais on comprend pas bien si on ne le ratifie pas ce traité et que malgré tout vous êtes pour le libre-échange, comment fait-on ?
Non mais il y a juste un moment, on n'est pas obligé de tout accepter n'importe comment. J'ai pas dit que j'étais pour le libre-échange, j'ai dit que j'étais pour un commerce international, je n'avais rien contre le commerce international à partir du moment où il respectait, où il allait vers du mieux disant social et il respectait des normes environnementales. Là, à part l'agenda de Monsieur Trudeau et d'Emmanuel Macron, je ne vois pas ce qui nous oblige à l'accélération de la ratification du CETA. À part, les voilà encore une fois, un agenda bien précis qui est l'agenda du Canada. Non, il y a juste des fois, c'est pas grave de pas signer un accord. On va pas en mourir. Hein, je vous jure que tout va bien
Jacques
aller.
Jacques Maire, on va pas en mourir.
Je veux dire, de toute façon, on est dans une situation dans laquelle il y a une guerre commerciale qui commence à se généraliser. Vous avez vu ce qui se passe entre la Chine, les États-Unis, etc. Et tout le monde a peur d'être une victime collatérale. Là, l'Europe a un instrument de souveraineté extrêmement puissant, c'est sa politique commerciale. Et là, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est on est en train de sécuriser à la fois les débouchés à l'exportation de la France et de l'Europe sur un grand nombre de pays. Donc c'est le CETA, c'est le Japon aussi qui a été signé. Et on est en train aussi, à travers ces accords, parce qu'on a le rapport de force, de faire prévaloir un niveau de normes européennes. Aucune norme sanitaire européenne et française n'est remise en cause par le CETA. Et au contraire, la tendance est à la hausse.
Merci à tous les deux. Il faudra refaire le même débat à propos du traité avec les pays du Mercosur, qui reviendra d'actualité dans quelques semaines. Merci à vous, Aurore Laluc, députée européenne du groupe socialiste et démocrate. Merci à vous, Jacques Maire, député de La République En Marche des Hauts-de-Seine, rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du CETA, qui sera donc débattu demain à l'Assemblée nationale. Merci à vous, merci à Pierre de Certaines pour la préparation de cette émission, Claire Destacan pour la réalisation, Mathilde Sour et Emma Ferret pour la documentation, Ludovic Asselot et Philippe Duclos étaient à la technique. Demain, à cette même heure, nous reviendrons sur l'affaire Rugit et au-delà, sur ce qu'elle révèle des mœurs politiques françaises, la transparence, jusqu'où